En colloque. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, mais qui était Jean-Jacques Rousseau ? Certes, ce fut un des grands philosophes du siècle des Lumières, auteur de l'Émile ou de l'Éducation en 5 tomes et du Contrat social, mais que sait-on réellement de sa vie ? Mélancolique et torturé, oui, fragile face aux maladies également. En tout cas, sa vie a suscité l'intérêt de Jean-Didier Vincent, académicien des sciences et physiologiste. Son approche est originale, il a imaginé les mémoires de sa femme, Thérèse Rousseau, d'où le titre de son livre « Mémoires et mélancolie, mémoires apocryphes de Thérèse Rousseau ». Jean-Didier Vincent a présenté son ouvrage en septembre 2006 à l'occasion de la journée du livre à l'Académie nationale de médecine dont le thème portait cette année sur les biographies médicales. Et originalité de ce colloque, chaque auteur s'est prêté au jeu du question-réponse avec un autre académicien. Ici, Jean-Didier Vincent s'est prêté au jeu en compagnie de Paul Vert, correspondant de l'Académie nationale de médecine. Alors, que révèlent ces mémoires de Thérèse Rousseau ? Je vous laisse écouter l'intervention de Jean-Didier Vincent et de Paul Vert.
Monsieur Jean-Didier Vincent, cet ouvrage aux confins de la fiction historico-littéraire et de la narration autobiographique est dédié à un viticulteur réputé du Bordelais, ce qui laisse à penser que, malgré les charmes que vous vantez de la mélancolie, vous n'avez pas le vin triste. Il s'agit d'un double récit contemporain, l'un contemporain et l'autre apocryphe du XVIIIe siècle, où se mêlent ici les aventures du narrateur, Gaston Lavergne, partagé entre le désir et la mélancolie, fortement teintée de culpabilité, et là, une révélation des tribulations de Thérèse Levasseur, compagne de Jean-Jacques Rousseau, qu'il épousa en 1768. L'ombre du grand philosophe est présente tout au long de ces deux périodes, en particulier autour des confessions, Rousseau comme parangon de la mélancolie ou de l'atrabilaire. Dans votre exergue, vous citez un vers d'Horace, « Post equitem sedet atracura ». Nous empruntons l'élégante traduction de Boileau, « Le chagrin monte en croupe et galope avec lui » dans l'art poétique. Ce vers est cité aussi par Montaigne dans le livre des essais consacré à la solitude qui accompagne souvent la mélancolie. Dans la première partie, le narrateur nous emmène de façon alerte dans le récit des aventures contemporaines d'un chercheur élevé selon des principes calvinistes, expert au service des Nations Unies à Genève, la patrie de Rousseau. Là, après quelques épisodes initiatiques de sa vie amoureuse, il rencontre Mathilda van Houten, nom d'une marque de chocolat. Aventurière superbe, trafiquante de manuscrits rares, dotée d'un corps comme un fruit mûr dans lequel on mord à travers la peau, sic. Elle est descendante de Belle van Zwillen, charrière, maîtresse de Benjamin Constant, qui est un des personnages que l'on voit apparaître dans le livre. Dès la rencontre entre le narrateur et Mathilda, ils partent pour Venise en train, ce qui nous vaut une description d'amour ferroviaire digne de la Madone des Sleeping. Là, à Venise, l'évocation de Casanova, l'antidote de Rousseau, à qui vous avez déjà consacré un ouvrage. Cette liaison amoureuse et non ferroviaire aura son aboutissement en Corse, à Corté, où en présence d'un mercenaire inspiré manifestement du colonel Bob Denard, Gaston Lavergne assiste à la remise du manuscrit des mémoires de Thérèse Rousseau en provenance des archives de James Boswell, 1740-1795, écrivain écossais, libertin mélancolique, qui fut en 100 ans l'émissaire du roi George III d'Angleterre auprès de Pasquale Paoli, du temps de l'éphémère République corse. Il y a quelque chose d'Hernani où au deuxième acte, on se trouve dans le tombeau de Charlemagne. Thérèse Levasseur, Thérèse Rousseau, à la fin de sa vie, dans la misère, ne sachant plus à qui s'adresser, avait envoyé, dit la fiction, le manuscrit de ses mémoires à Boswell, qui ne l'ait reçu que quelques jours ou quelques semaines avant sa propre mort. Chemin faisant, le narrateur rencontre à Genève un philosophe contemporain du nom de Rabinovitch dans le livre, probablement Jean Starobinski, avec qui se noue un intéressant dialogue qui est probablement le point le plus fort de tout ce livre. Intéressant dialogue sur la culpabilité et les tourments de l'âme, la mélancolie, l'origine du langage qui vient du corps, reflet insubstantiel du vivant, évident et qui évince la réalité. Là transparaît le neurobiologiste. La raison, je vous cite, démasque le paraître et dévoile le non-être. Phrase qui mérite une longue réflexion. Après un pastiche d'articles d'histoire attribués à Mathilda, qui en fait, Mathilda, c'est une aventurière, mais elle a fait une thèse sur Boswell à l'université de Yale, donc un personnage cultivé. Dans ce dialogue, il y a toute une série de phrases clés et qui méritent réflexion. Il y en a qui sont provocantes, amusantes. Est-il possible d'éviter l'enfer sans aller au paradis? Il est question du dualisme. Il y a un dialogue sur le dualisme. Le monde inséparable de son entourage et de l'autre. Il est question de l'enfer et des autres. D'ailleurs, chemin faisant, à Venise, le narrateur rencontre Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, qui pour tout langage s'exclament « un bateau sur la lagune ». Boswell, ce poète, écrivain écossais, est un autre grand mélancolique. Et après avoir fait ce chapitre sur Boswell, le narrateur revient à Jean-Jacques Rousseau, dont vous faites dire à un de vos personnages que les écrits servent à toutes les révolutions, y compris à celle de Pol Pot, écrit source de tous les totalitarismes. Le narrateur rencontre ensuite à Vevey Horace Morel. Je n'ai pas trouvé de clé pour ce personnage, et qui va être le tournant de la réhabilitation ou de la tentative de réhabilitation de Thérèse Rousseau, dont il est dit qu'elle est consubstantielle à Rousseau. Dans la seconde partie, Thérèse Levasseur-Rousseau raconte par le menu les épisodes intimes et domestiques de sa vie aux côtés du grand homme. Il y est question de ses enfants ou de leurs enfants au nombre de 3, on y reviendra, ou de 5 selon les versions, la sienne ou celle de Jean-Jacques. Et enfin, dont elle dit que l'aîné aurait eu Denis Diderot pour père et qu'un seul serait en fait l'enfant de Jean-Jacques qui souffrait d'une grave infirmité génito-urinaire. On voit passer dans ce livre de fiction toute une série de personnages du XVIIIe siècle, Diderot, Grimm, d'Alembert, entre parenthèses, enfant trouvé, qui eut un destin plus brillant que ceux de Jean-Jacques, le baron d'Holbach, Boswell, Madame Dupin, d'Épinay, d'Oudetot. Voltaire est la bête noire. Il est qualifié de vipère, de singe grimacier, de charogne puante. Il faut dire qu'au fur et à mesure que Rousseau publie, la disgrâce augmente et il est obligé de s'exiler dans la solitude avec Thérèse en Suisse, en Angleterre, où il rencontre David Hume, qui, d'après Thérèse Levasseur, complotait avec les ennemis, en particulier avec Voltaire. Étant menacé de prise de corps, il y a une véritable errance de Jean-Jacques Rousseau, qui se termine, on le sait, dans le parc d'Ermenonville. C'est une description, le texte apocryphe de Thérèse Rousseau, c'est une description faite de misérabilisme et de commérage, une sorte de récit people avant l'heure. On ne s'ennuie pas à la lecture de ces récits, d'un style agréable et très moderne, aux idées foisonnantes, avec de nombreuses références historiques ou littéraires authentiques. C'est l'œuvre d'un érudit et les prérequis sont nombreux pour apprécier la pertinence et la saveur des évocations. Tant de lieux, tant de personnages, tant d'épisodes où se mêlent l'authentique et l'imaginaire. Et il convient, en lisant ce livre, de vouloir dépasser une apparente légèreté. Le désir inspire nombre d'allusions érotiques, prétexte à la culpabilité et à la mélancolie qui semblent accompagner l'auteur-narrateur comme les vrais chagrins cités en exergue. Voilà donc la présentation globale que je fais de façon assez maladroite et très succincte de cet ouvrage. Mais Monsieur Jean-Didier Vincent, il, dans la règle du jeu, que je vous pose quelques questions. Et la première, chacune partira d'une phrase de votre ouvrage. Vous avez dit, à propos des philosophes, vous avez dit « Tous ces grands libertins, férus de plaisir, et ces philosophes inventeurs de la liberté, furent des mélancoliques. » Et vous parlez de la glue de la culpabilité à propos de la mélancolie. Mais il s'agit dans cette phrase des inventeurs de la liberté, et ma première question c'est comment vous situez la liberté par rapport à cette culpabilité, la mélancolie, l'ensemble étant engendré apparemment par la réalisation du désir.
Oui, merci beaucoup pour votre présentation tout à fait excellente d'un livre qui est touffu mais qui se veut ordonné et construit. Parce qu'il répond à des intentions extrêmement diverses, voire contradictoires, et qu'il est le fruit du hasard, probablement, sinon de la providence. Donc, la liberté, effectivement. Jean Starobinski, que vous avez reconnu sous le masque de Jean-Jacques Rabinovitch, qui est, comme tous les gens de Genève, quand ils se veulent de l'être, un des grands spécialistes de Rousseau. On ne peut pas naître à Genève sans être rousseauphile ou rousseauiste, et quand on sait comment Genève a têté Rousseau, on ne peut que s'en indigner, je dirais. Il n'y a d'équivalent en littérature que la façon dont Grenoble s'est conduit avec Monsieur Bayle. Mais enfin, j'ai eu ma récompense, puisque mon livre a été à peu près bien reçu, même assez bien reçu par quelques écrivains ou critiques que j'admire, mais que par contre j'ai été éreinté dans la tribune de Genève ou le journal de Genève ou je ne sais plus quoi, où on a traité mon livre d'absolument indigne, d'un torchon, de truc, enfin je ne sais pas, il n'y avait pas assez de phrases où manifestement il n'avait pas dépassé le troisième chapitre, mais c'est pas grave. J'en ai été secrètement, même ouvertement, extrêmement flatté. Alors, c'est donc Jean Starobinski qui est l'auteur de ce livre absolument essentiel sur le XVIIIe siècle qui s'appelle « L'invention de la liberté ». C'est vrai que cette idée de liberté, on l'a inventée dans le siècle rococo qui se caractérise par ses allées et venues et en même temps cet ordre apparent qui caractérise un salon rococo, par exemple, ou un meuble de rococo. Le rococo, c'est le style du XVIIIe siècle, et c'est le style de la liberté. C'est vrai que les libertins du XVIIIe siècle n'ont rien à voir avec ces héros austères du XVIIe siècle, qui étaient des libertins qui, véritablement, étaient des libertins moraux, des forces morales. Alors que le libertin du XVIIIe siècle est un homme libre, mais qui est à la recherche du plaisir, de l'instant parfait. Le prince de ligne, Casanova, sont des êtres qui sont là, qui n'ont pas encore la durée. Puis parmi eux, parmi tous ces philosophes, il y a Rousseau qui fait tâche, parce que lui, il est englué dans le temps, dans la durée, dans l'étendue, et il s'y complaît, et il y souffre. Mais les uns comme les... À la différence de ces quelques libertins phares que sont le prince de ligne et Casanova, qui ne sont pas des mélancoliques, la plupart des philosophes qui ont compté au XVIIIe siècle, et avant d'ailleurs, et d'une manière générale, les philosophes, sont souvent des mélancoliques. Et le XVIIIe siècle, vous l'avez vu avec l'exposition qu'a fait Jean Clair, Gérard Régnier, au Grand Palais, l'importance de cette mélancolie, les mélancoliques, ce sont en général, comme Montaigne, comme Burton, comme on en trouvera, on n'arrête pas de citer des mélancoliques dans toute l'histoire de la littérature, Ce sont des êtres un peu curieux, mais qui sont animés d'une culpabilité qui est le moteur essentiel de leur comportement, d'états dépressifs récurrents, mais ce sont des maniaco-dépressifs, c'est-à-dire qu'ils font alterner une hyperactivité, une créativité débordante, et en même temps, quelquefois, un sentiment, un besoin de mort, une fascination par les gouffres, par toutes ces choses qui vont donner à leur production sa couleur, qui est la couleur de la mélancolie, c'est-à-dire le noir. Et j'ai tendance à penser qu'une œuvre qui n'est pas un peu bordée de noir est quelquefois assez négligeable. Alors, c'est donc une sorte de réhabilitation de la mélancolie que je fais, là, à travers un mélancolique vraiment atrabilaire, à travers ce fameux Boswell que j'ai découvert assez tard, mais qui est un être admirable. C'est un grand journaliste, enfin c'est quelqu'un qui écrit son journal au jour le jour à partir de ses 20 ans et qui va voyager dans le monde, il fera son tour et il va laisser, à côté d'une biographie du fameux Boswell, il va laisser un journal qui est une œuvre majeure de la littérature anglaise, qui a été découvert tardivement, qui doit tout à la folie collectionneuse d'un colonel de l'armée américaine, et qui est maintenant déposé à l'université de Yale. Et ce journal qui a été partiellement traduit en France, mais qui est maintenant pratiquement entièrement publié, nous ramène à ce personnage fascinant, qui fait notamment un tour de Corse, qui écrit un état de la Corse à son retour, qui sera un des best-sellers du XVIIIe siècle en Angleterre. Et évidemment, ce tour de Corse de Boswell, où il va porter à Paoli la constitution qu'avait préparée Rousseau pour la Corse, il va se faire en quelque sorte le messager de Rousseau, et est un chef-d'œuvre de littérature de voyage. Je n'ai pas pu m'empêcher de faire un pastiche de ce voyage en Corse où je suis peu allé, en replaçant un peu ma Mathilde et mon héros Gaston Lavergne dans ces paysages de Corse et cette convivialité corse qui est assez extraordinaire. Donc ça vient là comme ça, comme des cheveux sur la soupe, si ce n'est que Bob Denard, je sais pas comment je l'appelle, qui vivait effectivement à Genève, va lui remettre, parce qu'il trafique avec quelques bandits corses, une possible invasion de l'île, va lui remettre, pour avoir des fonds, ces fameux mémoires, ou ces fameuses écritures de Madame Rousseau, de Thérèse Levasseur. Je me suis un peu noyé là.
Sur la couverture, qu'on voit mal, là, manifestement, il y a une jeune femme nue qui paraît être enceinte. Je ne sais pas si c'était dans l'intention du dessinateur ou dans la vôtre, mais ma deuxième question, c'est à propos des femmes. C'est-à-dire, vous avez deux héroïnes qu'on peut opposer, Mathilda, diplômée de Yale, et Thérèse, la servante au grand cœur, analphabète. Et au fil des pages, il y a des phrases, j'en cite quelques-unes. Pour Mathilda, c'était une créature appétissante à laquelle des stupéfiants se fussent facilement substitués, à qui il fallait un homme de chevet. Pour Thérèse, vous parlez de la sotte la plus intelligente. Vous parlez, un de vos personnages parle. Thérèse dit, les hommes n'écoutent pas lorsqu'une femme leur parle. Les femmes savantes n'écoutent que les hommes. Madame Levasseur, mère, qui cohabitait avec le couple Rousseau-Thérèse, était une bonne mère. Mais elle avait des défauts qui sont communément ceux des femmes. Goût de l'indiscrétion, une inclination à mentir, à tirer avantage de toute situation, quelles qu'en soient les conséquences. Et dans un dialogue avec Rabinovitch, il est dit que les femmes sont naturellement mauvaises, par opposition aux hommes, dans le débat de Rousseau. L'homme est le misérable gibier de la femme à un certain moment, et vous avez une formule amusante qui est où il est question du don d'orgasme. Et on a le sentiment que ces femmes ont été instrumentalisées à la fois dans la vie et dans le livre. Et ma question, c'est quel serait selon vous le portrait de la femme idéale?
C'est justement parce qu'elle n'existe pas que la femme est cet objet de désir. Le désir, c'est inaccessible, c'est quelque chose qui recule sa faim en permanence. Il n'y a pas de, au véritable désir, il n'y a pas de satiété. Je crois que une femme parfaite lasserait immédiatement. C'est comme le paradis. C'est des choses auxquelles il ne faut pas souhaiter aller. Moi, je bénis le ciel chaque fois des femmes imparfaites que j'ai rencontrées parce que elles m'ont procuré beaucoup de plaisir et laissé beaucoup de frustration. Donc, qui ont alimenté mon désir. Donc alors, la parallèle entre ces deux femmes, vous voyez, Mathilda, c'est tout simplement la réincarnation de Belle von Zuylen, qui est devenue Isabelle Charrière, et qui a eu un destin extraordinaire, parce qu'elle a été successivement la maîtresse de Constant d'Orange, qui est l'oncle de Benjamin Constant, dont elle a été l'initiatrice. Donc c'est des femmes qui jouent un rôle considérable, et Boswell avait été son fiancé pendant quelque temps. Vous voyez, tout ça se retrouve, et donc il y a une certaine cohérence dans la rencontre de ces personnages. Et Mathilda est une femme de désir, elle est étonnante, parce que bon, elle est dans la grande tradition des amoureuses, elle fait languir ceux qu'il aime, et elle joue de ses absences avec beaucoup de talent, et notamment à Venise, etc. Bon, c'était un peu quelque chose qui me venait, mais pourquoi Thérèse Levasseur, vous allez me dire. C'est comme ça qu'on écrit. Vous savez, un éditeur vous croise un jour dans un dîner en ville, c'est pas celui qui a publié le livre. Mais que dites, tu devrais faire des mémoires apocryphes d'une femme du XVIIIe siècle. J'ai été séduit par cette idée, puis je me dis, mais quelle femme. Ils ont écrit des mémoires. Il y a les mémoires de Madame d'Épinay, les pseudo-mémoires. Il y a toutes sortes de choses. Les femmes avaient du talent pour écrire. Elles en ont toujours, je pense. Mais elles ont choisi un style un peu différent aujourd'hui. Enfin, je me méfie des femmes qui écrivent aujourd'hui. Mais elles écrivaient vraiment très bien. Et j'ai donc choisi de prendre une femme qui était gravement dysgraphique, pour le peu qu'elle a écrit, j'ai eu quelques lettres entre les mains, dyslexique, dysgraphique, illettrée, et de réputation générale, mais surtout orchestrée par l'horrible Stahl, c'était une sotte et une méchante. Donc je vais peut-être faire les mémoires apocryphes de cette femme, parce que ça me permettra... Ne sachant pas écrire, il a fallu que j'interprète ces bafouillages, ces graphiques, ces gris-gris, ces gribouillis. Et ça a permis d'adopter un style pseudo-18e, enfin, qui ne nécessitait pas l'authenticité, puisque c'est une transcription. Et en découvrant Thérèse, j'ai peut-être redécouvert Rousseau, que j'ai lu avec un peu plus de conviction et moins de haine, parce que Rousseau est quelqu'un qui m'a toujours poursuivi d'une culpabilité. J'ai été élevé chez les protestants, j'ai gardé donc Broca, je suis né dans la patrie de Broca, là on est calviniste et on est quelquefois un peu austère avec le texte, et j'ai eu un peu de difficulté avec ça, notamment ailleurs, enfin c'est pas à Genève, mais je règle là quelques comptes, et progressivement j'ai découvert ce Rousseau que je n'aimais pas, pour lequel j'avais même de l'animosité. J'ai découvert un homme étonnant quand même, à travers le regard de cette femme simple, qui lui a consacré sa vie. Il était son dieu, il était son héros, et elle a pris soin de son corps. Et en prenant soin de son corps, elle a pris soin de son âme, bien entendu, et notamment leurs exercices érotiques, il m'a plu de les reconstituer. Ils étaient bizarres, c'est un grand onaniste, Rousseau. Les femmes ne l'intéressaient pas beaucoup en elles-mêmes, sauf à moins de tomber, comme la comtesse d'Otto, de follement amoureux. Mais il ne se livrait qu'à des attouchements, des petites choses, et il était entièrement centré sur son appareil génital, qui a été dit difforme. En réalité, je crois qu'il est passé progressivement de la masturbation à la co-masturbation avec Thérèse, qui lui enfonçait régulièrement des petites sondes dans l'urètre, prétextant de quelques obligations, de difficultés à uriner, qui contrastaient d'ailleurs avec des périodes de dénurésie, de perte qui lui arrivait toujours en société, ce qui lui servait de prétexte à dire « Comment voulez-vous que j'aille voir le roi si j'ai envie de pisser en même temps quand je vais me trouver depuis 2 minutes en face de lui ?» Donc, c'est une des raisons, paraît-il, pour lesquelles il a refusé sa pension. Mais il y a un jeu, là, autour de son narcissisme, de son onanisme, et puis de son voyeurisme aussi, de son exhibitionnisme. Il a une sexualité qui n'est pas très ragoûtante ou pas très classique dans ce siècle où tout est permis, où il est en contraste permanent avec ce bon
un peu vite, hein, genre de...
Quand je parle l'appareil urinaire de Rousseau, je suis intarissable. Mais ce que je voudrais vous montrer, parce que c'est une thèse médicale, c'est que probablement on a dit qu'il avait des malformations, etc. Les malformations, il se les a procurées lui-même. Je vous invite à essayer de vous représenter ce que doit représenter une sonde, une tige de je ne sais plus comment, qu'on vous enfonce dans l'urètre tous les matins, accompagné de massages divers.
Raymond Ardaillou va faire une courte intervention.
Donc je vais passer peut-être aux questions immédiatement, puisque la présentation de l'ouvrage vous a été faite très brillamment par Paul Vert. Premièrement, le titre. On nous présente Rousseau comme un mélancolique, c'est pas vrai du tout. Rousseau n'a jamais été mélancolique, il était insatisfait. Insatisfait, ça ne veut pas dire mélancolique. D'ailleurs, dans la discussion que Gaston Lavergne a avec Rabinovitch, on discute sur la définition de mélancolie. Et l'un des deux dit, la mélancolie du 18e, c'est la dépression du 20e ou du 21e siècle. Est-ce qu'un déprimé au 20e siècle aurait fait tout le travail intellectuel fait par Rousseau et aurait écrit une telle quantité d'ouvrages et aurait été un tel novateur? Quand quelqu'un est déprimé au XXe siècle, c'est un arrêt de travail qui se met, hein, habituellement. Donc, je m'inscris en faux sur le fait de Rousseau mélancolique. Rousseau a été un grand novateur et a été effectivement insatisfait parce que par rapport à la société qu'il idéalisait, celle dans laquelle il se trouvait,
C'est une provocation. Rousseau est le mélancolique typique, le mélancolique créateur. Montaigne est un mélancolique. Et je pense qu'il a produit une œuvre considérable. C'est des états d'humeur qui sont extrêmement fluctuantes, comme Lierre pourra nous les décrire. Ces humeurs qui vont vers le haut, vers le bas, et qui mettent toujours dans un état d'insatisfaction le personnage qui est atteint de cette souffrance. Mais quand on voit l'illustration de la mélancolie, c'est le rire de Démocrite. Hein. C'est ce mélange qu'on appelle aujourd'hui la maladie maniaco-dépressive, qui intéresse tellement les laboratoires pharmaceutiques, parce que les maladies bipolaires, on dit aujourd'hui, sont la nouvelle cible préférentielle des psychotropes. Mais il est comme ça, et il est créateur. Boswell, qui est alors la quintessence du mélancolique calviniste, animé par la culpabilité en permanente, va de tentative de suicide à orgie avec des prostituées, et écrit avec la même régularité son journal, où il est tantôt question qu'il se tue, tantôt au contraire qu'il commence une nouvelle vie chaque fois. Et je pourrais en citer bien d'autres mélancoliques. Et Rousseau est effectivement un mélancolique. Il a toujours une dévaluation, une image négative de lui-même. Il va toujours se tenir en retrait par rapport à la cour, par rapport à son succès. Il va créer lui-même les conditions de son échec. Et Starobinsky, qui est quand même un excellent psychiatre, puisqu'il a écrit une thèse en plus sur la mélancolie, sur l'histoire de la mélancolie, accepte bien volontiers, et je me mettrai à l'abri de son autorité, un mélancolique.
Deuxième question.
Enfin, c'est un mélancolique qui n'était pas inactif. Il a participé à toutes les polémiques de son temps.
Mais ne confond pas inactivité et mélancolique. Les mélancoliques sont extrêmement actifs, même quand ils se suicident.
Deuxième question.
Bon, deuxième question, dans une phrase, je ne me souviens plus où elle est. Jean Didier nous présente Rousseau, beaucoup d'autres l'ont dit, mais je m'inscris en faux aussi, comme le père des totalitarismes. C'est lui qui aurait inspiré Robespierre, la guillotine, Pol Pot, il a dit, c'est totalement faux. Rousseau est l'initiateur de la démocratie par le contrat social, et ce qu'il a dit effectivement, c'est que quand la loi avait été adoptée par une majorité, l'individu devait obéir à la loi. C'est tout ce qu'il a dit. Mais il a dit que l'autorité devait venir du suffrage et que pour le suffrage et les qualités de faire naître l'autorité, il devait avoir deux qualités, il devait être universel, et que chaque personne qui vote ne devait pas connaître l'opinion de l'autre. Hein, donc dire que Rousseau c'est le précurseur de Pol Pot, c'est vraiment méchant et c'est inexact.
Allez, réponds deux minutes.
Mais très vite, c'est Pol Pot qui a lui-même dit qu'il n'avait eu qu'une lecture dans sa vie, c'était les Confessions de Jean-Jacques Rousseau. Donc, et le contrat social qui vient compléter. Robespierre, évidemment, est l'enfant direct de Jean-Jacques Rousseau. Cette vertu prônée par les assassins de la terreur était une vertu qui était proclamée au nom de Rousseau. Rousseau a été le ciment intellectuel de tous les totalitarismes. Lénine était un consommateur de Rousseau à forte dose. Mais Rousseau, je n'ai rien contre ses idées généreuses. C'est merveilleux, c'est tout à fait beau. Il est aussi le père du roman avec la nouvelle Héloïse, qui est le premier best-seller de toute l'histoire de la littérature française. Mais en même temps, on ne peut pas lui prêter que... Lévi-Strauss est allé sur les traces de Rousseau. Il n'est pas, que je crois, un totalitarisme. Mais tous ces errements sur l'école, sur l'éducation, toutes ces choses, toutes ces dérives qu'il y a eu au cours du XIXe siècle et ensuite du XXe siècle, vous y trouvez Rousseau à la base.
Bon, je crois qu'il n'y a pas manière de vous entendre. Je ne suis pas sûr que l'Assemblée t'approuve totalement. Mais enfin, malheureusement, écoutez, je crois qu'il faut passer à un autre sujet. Alors, merci beaucoup.
Vous venez d'entendre l'académicien des sciences Jean-Didier Vincent. Il défendait son livre « Mémoires et mélancolie, mémoires apocryphes » de Thérèse Rousseau face à Paul Vert, correspondant de l'Académie nationale de médecine, dans le cadre de la journée des biographies médicales qui s'est déroulée en septembre 2006. Retrouvez nos émissions sur Ravel, Bartok, Freud ou encore Madame de Sévigné, toujours dans le cadre de cette journée des biographies médicales dans notre médiathèque. Merci d'être à l'écoute de Canal Académie et à très vite sur notre site.